à toutes et à tous, Audrey Lamoli et je suis ravie de vous retrouver sur IDFM dans l'émission La Parole aux Associations, une émission dédiée aux associations et à ceux qui les font vivre. Cette semaine, je reçois une partie de l'équipe valdoisienne de la Protection Civile, association reconnue d'utilité publique et agréée Sécurité Civile, qui intervient sur trois grandes missions: aider, secourir et former. Pour nous parler des actions que mène l'association, j'accueille ce matin Christophe Martins, directeur de l'antenne Valparaisis, et Étienne Broquet, bénévole actif de l'antenne Valdoise. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Au sommaire de cette émission, je vous propose d'abord de découvrir nos invités dans la rubrique Portrait d'engagé. Puis Christophe et Étienne nous présenteront plus concrètement comment la protection civile intervient concrètement au quotidien et sur le département du Val-d'Oise. Et en dernière partie d'émission, nous reviendrons sur l'accompagnement et la formation que vous proposez à ceux qui font tourner la machine et qui permettent que vos actions bénéficient au plus grand nombre. Je parle bien sûr des bénévoles. Qui sont-ils? Que font-ils? Comment sont-ils outillés et accompagnés dans leur engagement? C'est ce que vous nous expliquerez tout à l'heure. Alors tout d'abord, je vous propose de faire vos portraits d'engagés pour mieux faire connaissance, si bien sûr vous en êtes d'accord.
Bien sûr.
C'est parti. Et ben, première question que je vous pose à tous les deux et que je pose à chacun des invités, avant de parler de ce que vous faites au sein de la protection civile, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous faites en dehors de votre engagement bénévole? Qui vous êtes? D'où venez-vous?
Vas-y, je te laisse commencer, Étienne.
Bon, je commence. Donc bonjour à tous, je suis Étienne Broquet, j'ai 28 ans, jusque-là je suis bon. Ça va faire 4 ans que je suis à la protection civile, dont 2 ans à la protection civile du Val-d'Oise. Et sinon, je suis originaire du Nord, j'ai fait des études d'ingénieur en topographie, je travaille dans le milieu ferroviaire et principalement dans tout ce qui est métro et tramway, donc avec une entreprise du Val-d'Oise. Je sais pas si on peut citer les entreprises ou pas.
Ah bah vous faites comme vous voulez.
La société ETF, une filiale du groupe Vinci, donc ça va faire 3 ans que je suis là-bas et donc je travaille exclusivement donc sur le métro parisien avec beaucoup d'horaires de jour, de nuit, avec beaucoup de postes en décalé, ce qui me permet de parfois libérer du temps à des moments où d'autres bénévoles peuvent travailler et inversement.
Merci Étienne. Et Christophe, qui êtes-vous?
Christophe Martins, j'ai 23 ans. Je viens de finir à peine mes études dans le transport et la logistique, un master, et je commence dans la vie active mardi prochain. Donc grand pas.
Bravo.
Toujours dans le transport et la logistique. Donc c'est vrai que c'est totalement différent du secourisme et de l'association dans laquelle je fais partie depuis maintenant 4 ans également. Le temps passe vite. Et c'est sûr que deux passions qui s'opposent un peu, ça, enfin c'est assez complémentaire, on va pas se mentir. Et du coup, dans ces fonctions de dans ma vie actuelle, je fais pas mal de choses et aussi allier du coup le travail, la vie associative, la vie personnelle, faut avoir un certain équilibre et je trouve que là-dessus c'est plutôt pas mal. Donc
Et alors justement, comment avez-vous rejoint l'association? Tous les deux, vous êtes arrivés à la protection civile il y a 4 ans, alors pas au même endroit pour Étienne. Comment on arrive à la protection civile? Qu'est-ce qui fait qu'on va toquer à la porte de la protection civile?
Pour ma part, j'avais déjà mes diplômes de secouriste parce que je voulais travailler l'été. Donc en fait, je bossais déjà en tant que surveillant de baignade. J'avais déjà mes premiers diplômes de secouriste, et en fait, le Covid est arrivé. Et du coup, enfermement à la maison, avec les parents, la famille, à un moment, ça devient étouffant. Pas de chien à promener, donc c'est un peu compliqué pour sortir. Donc, il faut trouver une activité pour pouvoir sortir, et vu la vu ce qui se passait autour, et en regardant sur Internet, avec les diplômes qu'on a, je suis allé toquer à la porte et littéralement 3 jours après, vu que j'avais déjà mes diplômes de secouriste, une tenue en main, j'étais déjà en mission pour la protection civile du Val-d'Oise.
Et vous, Étienne?
Alors moi, c'est un peu différent. C'est aussi de longue durée. C'est vers 16-17 ans. Mon père, il me dit ça serait bien d'aller voir les pompiers du village parce que ils recherchent du monde. Et puis dans la ville, il y avait la famille Le Maire qui se reconnaîtra s'ils écoutent. Ils sont tous pompiers de père en fils, ils sont 8 gamins, ils sont 8 pompiers, et j'ai toujours trouvé ça admirable, et c'est vrai que ça faisait vivre le village, et puis il m'a dit bah vas-y toc, et puis donc en discutant avec le monsieur le maire qui était le commandant, il m'a dit bah si tu veux rentrer rentre, par contre dis-moi juste ton parcours pro et enfin au niveau de tes études où t'en es. Donc je lui dis bah je passe le bac dans pas longtemps et après je vais faire des études un peu plus loin. Il m'a dit bah commence à t'entraîner, mais avant de te faire rentrer, moi je préfère que tu fasses tes études parce que ta vie perso elle sera dictée par ton travail et pas que par ton action bénévole ou volontaire à côté. Et au final bah ça m'est toujours resté dans un coin de la tête, sauf que bah je devais faire 2 ans d'études et finalement j'en ai fait 5 parce que le diplôme d'ingénieur était largement accessible. Donc j'ai continué et puis en arrivant bah aussi avec monsieur Covid qui nous a un peu tous embêtés, je me suis retrouvé avec un boulot. Donc en tant que géomètre, je travaillais sur l'aéroport d'Orly où on était en train de percer la ligne 14 du métro parisien, et donc tous les jours j'étais là-bas, donc j'avais un métier prioritaire, donc tous les jours je pouvais être là-bas, je travaillais, et tous les jours je voyais la Protec qui passait, je voyais la police qui passait, avec bah, justement les grandes missions qui ont été de la protection civile, d'aider à faire circuler les patients pour que tous les hôpitaux soient remplis correctement et qu'il n'y ait pas de surcharge. Et je me suis dit, bah, il va falloir que j'y aille au bout d'un moment, ça fait trop longtemps que tu as envie d'y aller. Que tu as quand même certains diplômes et que tu as des bons réflexes et surtout du bon sens. C'est 80% du secourisme, ça va être du bon sens. Hein. Et en fait, bah, je me suis dit, allez, je vais m'engager. Et j'habitais à ce moment-là à Boulogne-Billancourt. Et en regardant, en fait, il y avait une formation dispo la semaine d'après, dans le 91, à Lys. Et donc, j'ai pu faire ma formation. Ils m'ont dit, bah, première étape de formation PSE1, donc premier secours en équipe de niveau 1. Et il y a le niveau 2 qui arrive par la suite. Ils m'ont dit, bah, t'as qu'à t'inscrire chez nous et puis on va commencer comme ça. Et finalement, je suis resté 2 ans chez eux. Ça s'est super bien passé jusqu'au moment où bah, j'ai déménagé dans le 95. Je me suis dit, bon, 1h30 de route pour aller faire des postes de secours, c'est bien joli. Je vais regarder à côté de chez moi. Donc à côté de chez moi, il y avait l'antenne de Hermont à ce moment-là qui est passée maintenant à Sannois. Et je me suis inscrit, qui n'était pas encore Chris le directeur, mais qui était Émilie. Et en fait, en discutant, bah, valeurs communes, fonctions communes. Donc ça a tout de suite matché. Et donc maintenant, je suis toujours dans le 91 pour des missions un peu spécifiques quand ils ont besoin. Et je suis principalement dans le 95, à 95% du temps, on peut le dire.
Et alors, est-ce que vos familles... Alors, Étienne, vous nous avez dit, voilà, mon père m'a dit, va voir une autre famille de pompiers. Mais ouais. Est-ce que vos familles, elles sont déjà dans... Soit dans la protection civile, soit dans le secourisme, soit des médecins, des aides-soignants.
Pour ma part, c'est assez drôle parce que de base, c'était pas le but premier. Ma famille ne voyait pas du tout dans ces actions-là. Quand j'y suis rentré, il y a 4 ans, ma sœur était infirmière. Mon père avait fait une carrière de 25 ans d'ambulancier. Donc c'est vrai que déjà la famille tournait un peu autour du médical. Je suis rentré à la protection civile et au fur et à mesure du temps, on incite aussi les gens et j'ai papa qui a rentré à la protection civile en mai pour faire du secourisme parce qu'il était en reconversion. Donc le temps aussi fait que
on a plus de temps pour se former,
pour pouvoir faire des activités autres. Et j'ai encore maman il y a 2 semaines qui m'a dit fils, j'aimerais bien faire des actions sociales, faire des maraudes et tout ça. Donc maman est officiellement bénévole depuis maintenant 2-3 jours dans l'association.
Vous avez embarqué une partie de la famille.
Voilà, c'est ça, c'est toujours cool.
Il manque la sœur quand même. On l'attend. Bon. Elle est quand même infirmière, on l'attend au tournant
maintenant.
C'est ça.
Mais du coup, c'est valorisant et c'est aussi, je pense, une preuve de mon engagement qui leur a aussi donné envie de s'engager dans des choses comme ça parce que s'ils ne me voyaient pas m'épanouir, ça leur donnerait peut-être pas non plus forcément envie de vouloir dans quel domaine j'évolue depuis maintenant 4 ans et j'en parle avec passion et tout ça. Donc forcément...
Et vous, Étienne, personne dans le pas un petit héros de secourisme?
Non, pas du tout. En fait, il y a dans le village, c'est un village de 5000 habitants quand même. Donc il y avait une grosse famille qui était quand même bien implantée et qui était très copain avec papa, maman et aussi on avait un an d'écart avec un de leurs enfants. Donc on a souvent discuté et puis c'était quelque chose qui m'affectionnait parce que comme je suis dans la rue principale, je voyais les camions rouges qui passaient souvent. Et je me suis dit un jour il va falloir peut-être quand même s'engager, soit pompier, soit protection civile, soit même Croix-Rouge, quelque chose. En fait, faut quand même se bouger de temps en temps. Et donc, papa expert-comptable, maman comptable, mon frère dans le droit, ma sœur dans l'éducation, aucun rapport.
Il manquait plus que.
En fait, il en fallait un qui déconne, quoi, qui aille vers autre chose. Et je me suis dit que, au bout d'un moment, c'est bien d'être. J'ai un boulot qui gagne correctement sa vie. Et je me suis dit, ça sert à rien d'avoir des heures où on traîne dans un canapé. Donc mon canapé est quasiment neuf. puisque dès que je peux être à la Protec, bah, je suis à la Protec ou je suis engagé quelque part.
Et alors justement, quelles sont vos missions principales au sein de l'antenne valdoisienne ?
Alors au sein de l'antenne, moi du coup je suis directeur de l'antenne du Val-Parisis depuis janvier maintenant. Juste avant, j'étais référent pharmacie logistique, donc tout le matériel qu'on peut trouver dans nos sacs de secours, dans les véhicules, faire les inventaires, vérifier que les dates de péremption soient correctes, adapter au plus au référentiel qu'on pourrait avoir un peu à droite à gauche. Ces missions-là, je les faisais, et suite à la démission de notre ancienne directrice d'antenne, j'ai été élu. Et mon rôle, c'est de permettre d'avoir une certaine cohésion, de créer une cohésion au sein de l'antenne, de pouvoir animer aussi mes référents, parce qu'à un moment je peux pas tout faire non plus, y a quand même quelques responsabilités et j'y passerai deux fois plus que le temps qu'il faudrait, donc faut savoir aussi déléguer. Je traite du coup les problèmes qu'il peut y avoir, les recrutements qu'on fait aussi au sein de l'antenne, la montée en compétences de nos bénévoles, les inscrire en formation, les accompagner, les problématiques qu'il peut y avoir à droite et à gauche. Un peu de politique, on va pas se mentir, où faut aller serrer deux trois mains, où faut être présent.
Des temps de représentation.
C'est ça, des temps de représentation où on assiste aux différentes commémorations qu'on peut avoir durant l'année et dans toutes les villes qui nous offrent, enfin qui nous invitent aussi à ce type de commémoration. Donc on est présent là-dessus et c'est comme ça aussi que je gère pas mal de mon temps. En plus d'être quand même, je pense, un bénévole actif de l'association en faisant pas mal de choses. Donc c'est vrai que là-dessus,
pas mal de choses,
pas mal de bonnes choses.
Et vous, Étienne, vos fonctions ?
Alors moi, mes fonctions, elles sont un peu moindres, mais bon, c'est Chris qui me les a données, donc je peux pas les dénigrer. Donc moi, je suis référent véhicule sur l'antenne sur notre antenne, donc le Val-Parisis, donc le secteur de Sannois, c'est moi qui est référent véhicule. Donc on en a deux. Et après, je suis référent départemental aussi pour les véhicules, où là, on a fait un trio pour dire parce qu'on a quand même une trentaine de véhicules à gérer, que ça soit l'entretien, que ça soit la maintenance aussi, parce que on a certains bénévoles qui peuvent, forcément, c'est de la conduite d'urgence parfois, donc qui peuvent avoir des légers accros. Oh, ça va être compliqué ce mot-là.
Léger accro.
Qui pourraient avoir un petit accro sur un véhicule. Donc voilà, c'est gérer ça. Je refaire aussi la maintenance préventive qui peut être faite sans passer par le garage. Et donc ça, c'est mon rôle en tant que référent véhicule. Pendant un moment aussi, j'étais référent doubleur véhicule. Donc c'est quand les gens ils sont en formation pour passer permis urgence, on va dire, ce qu'on appelle le permis blanc. Nous, il y a une formation et il y a surtout un contrôle que la personne, elle conduise de manière correcte, sécuritaire pour lui, pour les autres. Et après, à côté de ça, je suis formateur PSC ou PSC1. Ça va être... le nom est en train de changer, donc je dis les deux noms pour le moment. Et donc, j'ai cette chance aussi de pouvoir accompagner les gens que je croise qu'une journée dans leur vie et qui, j'espère, je vais pas les recroiser parce que ils se blesseront pas chez eux puisqu'ils seront un peu plus attentifs. Puisqu'il y a surtout le mot prévention dans cette formation, prévention sur la sécurité, donc c'est vraiment prévenir les risques, éviter de laisser un couteau sur la table à côté des enfants, des petites choses toutes bêtes, mais 60% des accidents, on pourrait les éviter. Sinon, on peut nous éviter 60% de notre travail en tant que bénévole, ça peut être super, surtout pour des petites bêtises. Mais donc voilà, donc ça c'est mes rôles, et après c'est aussi en tant que bénévole intervenir sur des postes de secours, aider, secourir, former.
Et encore, t'as oublié quelques trucs, ou par exemple l'affectation des véhicules, choisir aussi les conducteurs pour conduire les véhicules. Il y a des missions qui sont à deux, des missions qui sont à quatre, à six, à huit ou plus. Donc il faut aussi choisir les véhicules qui sont adaptés. Dépendant aussi des profils qu'on peut avoir et des personnes qui vont conduire aussi ces véhicules, parce que les personnes qui conduisent des petites Twingo, conduire un camion ou des choses comme ça, c'est aussi faut gérer aussi les petites urgences comme ça, donc on gère aussi les petites urgences comme ça, ça faut pas l'oublier.
Merci beaucoup Christophe et Étienne d'avoir bien voulu nous en dire un petit peu plus sur vous. Je vous propose de découvrir plus concrètement ce que met en place votre antenne juste après avoir écouté Dua Lipa. À tout de suite sur IDFM. Maybe we should switch careers, 'cause baby you don't know I'm be top poker faces. And when the night ends up in tears, wake up and we blame it all on being wasted. Walls could talk. toujours sur IDFM dans l'émission La Parole aux associations. Nous recevons ce matin Christophe Martins et Étienne Broquet de la Protection Civile. Alors, la Protection Civile, il me semble que c'est une association nationale.
Exactement.
C'est ça.
Exactement.
Et est-ce que vous pourriez brièvement nous rappeler un petit peu, nous poser un peu le décor, c'est-à-dire est-ce que vous savez à peu près quand est-ce qu'elle a été créée, dans quel contexte,
ouais.
Et surtout votre lien, vous, antenne valdoisienne, avec la Protection Civile France.
Ouais.
Tu veux que je prenne ?
Ouais, vas-y.
Bon, allez. Donc nous, la Protection Civile, on a été créé en 1951. Et donc on est surtout intervenu, c'est pour regrouper toutes les fédérations et toutes les petites antennes qui pouvaient être créées sur l'aide quand il y avait des attentats, des catastrophes naturelles, des guerres, etc. Donc là on a été vraiment, on a créé une association en 1951, donc une association loi 1901, agréée de sécurité civile. La première association départementale, c'est aux alentours de 58, et vraiment, donc c'est des 1965 où il y a la Fédération de Protection Civile, la Fédération nationale qui a été créée.
C'est ça.
Après, on a été reconnu d'utilité publique en 69, et donc nous, sur le Val-d'Oise, on est là depuis un long moment, ça fait plus de 30 ans qu'elle existe, avec la première antenne qui était Villiers-le-Bel.
C'est ça.
Et alors, quel lien vous avez avec la Fédé?
Alors en fait, chaque département possède sa protection civile départementale et du coup, il y a une fédération qui va régir un peu sur toutes les départements, leur donner un peu les grands axes à suivre, mais après chaque département est libre de faire ce qu'ils veulent, en sachant que c'est, faut pas oublier que c'est une association aussi, c'est avec le temps ça devient aussi une petite entreprise et tout ça, mais ça reste une association. Et du coup, on a les grands axes qui nous sont donnés, et histoire de que chaque département se ressemble aussi sur certains points, que ce soit au niveau enfin de toute façon les réglementaires ils sont uniques pour tous, donc voilà, mais que ce soit les tenues, que ce soit plein de choses différentes qui
la
peut,
communication,
la cohésion aussi, parce qu'il y a une grande cohésion, l'entraide qui peut y avoir aussi entre les départements. Et du coup, c'est eux qui chapeautent aussi un peu tout ça, et aussi les gros dispositifs qui peuvent être nationaux, comme
les JO
qu'il y a eu récemment,
ah oui,
le Tour de France. À l'époque, on avait eu avec l'Ukraine, la guerre en Ukraine, on avait fait énormément de soutien à ce niveau-là pour pouvoir créer des convois et envoyer du matériel, des vêtements, des d'ondes et tout ça en Ukraine, c'est nous qui avons aussi organisé ça, et c'est aussi au rôle de la fédération de pouvoir
coordonner les différentes
actions locales qui peut y avoir aussi.
Alors, qui compose l'antenne,
les antennes
Val d'Oise?
Exactement. Dans le Val d'Oise, on est composé de 5 antennes, on a 350 bénévoles sur le secteur du Val Parisis, du coup Sannois, antenne de Sannois, on est 70 bénévoles. Après, on a une antenne à Saint-Ouen-l'Aumône. On a une antenne à Parmain, une antenne à Montsou et une antenne à Villiers-le-Bel, où du coup le nombre de bénévoles est assez disparate. Il y a aussi un siège où on a des salariés, on a aussi un centre de formation à Cergy-Saint-Christophe qui nous permet de faire 5 formations en simultané. Donc c'est quand même quelque chose qui est plutôt cool, on a des formations tous les jours. Et comment est-ce que ça fonctionne? Chaque antenne a un directeur d'antenne avec ses référents et qui du coup font la cohésion et l'animation de l'activité opérationnelle qu'il peut y avoir et tout ça.
Alors on l'a dit en introduction,
ouais,
3 missions principales de la protection civile: aider, secourir et former. Concrètement, quelles sont les actions sur le Val d'Oise, les actions affiliées à aider.
Je vais faire un pôle, tu feras l'autre. Je pense que ça sera un peu plus correct sur aider. Dans aider, il y a deux pôles. Il y a une partie où on va faire des actions sociales, où en fait on va dans cette partie-là, on va mettre en place des maraudes dans le 95. Nous, sur le secteur du Val-Parisis, on fait une maraude tous les mercredis soirs où on vient discuter avec les bénéficiaires, les différents bénéficiaires qu'on peut avoir. C'est pas de la distribution alimentaire comme les autres associations peuvent le faire, comme la Croix-Rouge ou le Resto du Cœur peuvent le faire. Nous, on vient discuter avec nos bénéficiaires, on vient partager un moment, savoir comment est-ce qu'on peut les aider. Certes, on leur offre un petit repas, on peut leur donner des vêtements s'il le faut, s'ils en ont besoin, mais on intervient comme ça.
Faites pas du tout de soins, par exemple?
on fait pas de, enfin, si on arrive, si on s'approche d'un bénéficiaire qui a besoin de soins, là, on peut le prendre en charge, enfin, on peut faire un début de prise en charge, mais dans tous les cas, faudra réguler au SAMU s'il y a besoin d'être transporté, ou dans tous les cas, on est en lien dans ces moments-là avec le 115, le SAMU social, qui prendra le relais s'il faut reloger aussi des personnes, comment est-ce qu'on peut les aider, les déclarer, parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout déclarés dans la rue, et c'est aussi notre rôle de aller au contact des gens qu'on peut croiser sur notre tournée dans tout le secteur pour pouvoir intervenir, enfin pour pouvoir les déclarer et qui restent pas dans l'inconnu, en tout cas à ce niveau-là.
Donc les maraudes, je crois que vous faites des visites en EHPAD,
c'est ça,
auprès des personnes isolées.
C'est ça, on fait des visites souvent le samedi après-midi. Là-dessus, nous, on va pas dire qu'on y gagne rien, juste de la satisfaction d'aller voir aussi des personnes isolées, parce que les familles ne passent pas forcément tout le temps. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est assez assez spécial. On n'apporte pas de soins, on apporte pas juste une après-midi avec des personnes qui peuvent être parfois même plus isolées socialement que des personnes qui peuvent être dans la rue. Donc c'est important aussi pour nous de mettre ça en place.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions qui vont dans la catégorie aider, même s'il doit y avoir des vases communicants,
c'est ça,
entre aider et secourir? Est-ce que
il
y a est-ce que le soutien à la population
fait partie? Exactement. Ça, c'est l'autre partie du coup du mot aider, où on vient faire du soutien à la population. Si tu veux expliquer peut-être un peu ce qu'on fait en soutien à la population.
Alors, soutien aux populations, c'est à peu près très très vaste, puisqu'au final, on peut intervenir que ça soit sur une catastrophe naturelle. Donc, on peut parler, il n'y a pas si longtemps, il y a eu des inondations dans le 77, il y a eu des inondations dans le 62, en Bretagne. Et ben, à ce moment-là, on va intervenir. Nous, on a des véhicules qu'on appelle un fleet, donc c'est un fourgon lourd d'intervention technique, et en fait, qui va venir soutenir la population, parce qu'il a dans ses super grandes malles, il a des générateurs électriques, des tuyaux pour dire de vider des caves ou vider une pièce qui est complètement inondée, des balais, des pelles, des pioches, voilà, quelque chose pour pouvoir aussi treiller un arbre, pour pouvoir couper un arbre qui est en plein milieu de la route. Pour
donc
pouvoir...
en cas de catastrophe naturelle, voilà, par exemple, ou d'événements exceptionnels qui fragilisent la population,
exactement,
vous êtes là.
Et donc ça va être la partie vraiment technique. On arrive sur, entre guillemets, gros œuvres. Mais après, on a aussi la partie qui va être CAI, donc c'est un centre d'accueil des impliqués. C'est lorsqu'il peut y avoir, par exemple, un attentat. Aussi, un gros incendie, il n'y a pas si longtemps, sur Gonesse, on a eu un incendie assez important. Les pompiers gèrent l'incendie, nous on gère la population, où on a monté avec la Croix-Rouge, en même pas 2 heures, on a monté à peu près 200 lits, avec chacun une couverture, un oreiller, un repas chaud, mais surtout une oreille attentive, ce qui revient un peu comme la maraude. Au final, on va être juste du soutien affectif et aussi moral à la personne, psychologique. Là, on va vraiment venir accueillir les gens pour juste discuter. Former, c'est très bien, aider,
rassurer,
c'est très bien, et c'est surtout, on va être là avec les gens.
Assistant social, je sais plus. Et du coup, on est là juste pour, sur le moment, accompagner les gens, mais on n'est pas là pour les reloger ni rien. Donc, on est vraiment là pour les gens.
C'est de l'urgence.
Et on forme du coup aussi nos bénévoles. C'est un peu en lien. Enfin, toutes nos missions sont un peu en lien. On forme aussi nos bénévoles à pouvoir interagir selon les circonstances qu'on peut avoir en face de nous. Donc, ça, c'est aussi intéressant.
Et alors, je crois qu'il y a une spécificité du Val d'Oise. Christophe, en préparant l'émission, vous m'avez
dit
que le Val d'Oise, vous aviez une équipe nautique.
On a aussi une équipe nautique qui peut intervenir sur des postes de secours assez divers, par exemple un tournage de film ou autre, mais on peut aussi intervenir aux besoins, par exemple, de la préfecture, à faire des recherches en cas de personnes disparues. On peut être mis à contribution pour pouvoir faire des recherches, longer les bords de l'Oise. Et par exemple... c'est arrivé, je sais plus, il y a pas si longtemps, je ne sais plus.
La recherche de personnes
disparues
en forêt. On a aussi une équipe 4x4 d'ailleurs, pour le préciser. Et on a engagé une partie de notre équipe 4x4 avec nos collègues du 77 qui ont une équipe cynophile. Une personne qui a voulu disparaître. Et avec sous réquisition de la PJ de Paris, on a police judiciaire de Paris, on a été mis à contribution pour venir encadrer des gens civils qui voulaient justement venir faire de la recherche. Et donc on a encadré le dispositif en lien avec la police et la gendarmerie. Eux, ils nous ont donné les grandes lignes, les cartes, et après nous on a géré. Donc c'est là aussi où on voit le lien entre différentes associations, entre différentes
départements,
ADPC,
Parce que nous, on a des bateaux, on a un buggy, les autres peuvent avoir des équipes cynophiles, dans 78, ils ont une équipe équestre, enfin, il y a des choses...
Oui, vous pouvez, toutes les antennes peuvent pas être équipées entièrement pour parer à tout...
Faut choisir, il faut aussi avoir le personnel pour l'utiliser aussi, c'est aussi ça le
imaginons un 4x4 en plein milieu de Paris, pour passer trois bordures dans l'année, ça sert à rien. Alors que nous, dans notre département, on a vraiment des zones qui sont boisées, sont inaccessibles en 4x4. Enfin là, c'est un buggy qui est quand même extrêmement puissant et extrêmement maniable. Ça monte aux arbres, ce bazar-là. Donc, faut quand même le mettre dans des personnes qu'on forme, mais c'est surtout dans les bonnes conditions.
C'est ça. Pareil que nos bateaux, avec des équipes, enfin des secouristes nautiques qui sont formés et des pilotes qui sont aussi formés à ça.
Alors ça, c'est pour l'essentiel des actions que vous menez dans la partie aider. On voit que c'est très étendu, votre champ d'intervention, vos champs d'intervention. Vous avez aussi la partie, la deuxième mission qui est celle de secourir. Alors, on était déjà un peu dans le secours, là, donc quand vous nous dites ça. Mais qu'est-ce que vous entendez par secourir? Qu'est-ce que vous mettez en place particulièrement dans cette catégorie ?
Pour secourir, nous, on intervient sur des dispositifs de prévisionnels de secours, donc à la demande de que ce soit des associations, de villes ou même de la préfecture, on vient monter des postes de secours pour assurer la sécurité de différents événements qu'il peut y avoir. Ça peut être la brocante du coin, la fête de Noël, le 14 juillet.
C'est vrai qu'on vous connaît beaucoup
concert,
comme ça.
le concert qui peut se passer, le festival, enfin tout événement où il y a du public, on peut être demandé et dépêché pour ça. En tout cas.
Et vous connaissez les obligations pour une association? À partir de combien de personnes attendues on doit faire appel à un poste de sécurité
On a quelque chose qui s'appelle le RIE et c'est un quota et un quotient qui calcule dépendant des, enfin si c'est le public qui va être assis, s'il y a de l'alcool, si c'est du mineur, si le nombre de personnes attendues en majorité. En fait, ça va faire un coefficient et ça va nous permettre de jauger le nombre de bénévoles qui a besoin sur place en fait pour monter un poste de secours et c'est ça qui va dimensionner principalement nos postes de secours à savoir que des fois le calcul le calcul va donner une base mais faut aussi prendre en considération le lieu qui va faire 600 mètres carrés ou je ne sais quoi qui va dire tu peux pas avoir juste un binôme mais il faut au minimum deux binômes ou une équipe de 6 ou ça peut rajouter le coefficient ne prend pas tout en compte et du coup le calcul peut être faussé et c'est aussi pour ça l'expérience qu'on a nous en tant que bénévole et personne active et aussi c'est les personnes qui gèrent ça exclusivement par exemple au siège il y a des personnes qui gèrent ça exclusivement un salarié qui le fait ils sont au courant de tous les risques et tous les moyens qu'il y a besoin aussi à mettre en place dépendant de l'événement et du coup on va de 2 à
beaucoup de secouristes on peut aller jusqu'à 200 secouristes comme sur les vieilles charrues par exemple. Après, on peut parler des JO, où on était plus de 1000 secouristes par jour.
C'est ça.
Donc là, on engage quand même 1000 personnes qui viennent sur leur temps personnel ou sur leur congé, sur leur RTT, pour venir aider des gens, enfin vraiment secourir des gens. Donc là, on peut vraiment aller de 2 à 35 000.
Et alors, je crois que vous collaborez étroitement, enfin, vous l'avez même évoqué avec le SAMU quand même.
C'est ça. On fait, pendant le Covid, du coup, où il y a eu des conventions qui ont été faites avec l'ARS et le SAMU. Ça, après, moi, je suis pas non plus tête savante là-dessus. Mais en tout cas, on faisait des gardes au profit du SAMU. On était en 12h-12h. Donc, on faisait 8h, 20h, 20h, 8h. Avec des équipes, avec des chefs d'équipe. Parce qu'à un moment, il faut aussi cadrer un peu la chose. Des chefs d'équipe, des personnes qui sont habilitées à la conduite en état d'urgence avec des victimes. Faut passer par un médecin préfectoral et des choses comme ça, faire valider en tout cas
plus une formation chez nous,
plus une formation et en fait on fait du secours à personne. Quand vous appelez le 15, par moment ils vous disent on vous envoie les secours et quand vous ouvrez votre porte, c'est nous petit bonhomme en orange et bleu qui venons vous porter secours. On a fait ça pendant toute la période du Covid et je crois qu'on a tenu une chaîne de plus de un an et demi où il y avait forcément un véhicule du 95 qui tournait dans le 95 au soutien de la population. Mais il y a des soirs ou des journées où on montait à 4 vecteurs d'ambulance, donc ça faisait 3 fois 4 3 fois 4, donc ça faisait 12, plus une personne limite qui faisait de la régulation pour dire, bah, toi tu vas à tel endroit, toi tu vas à tel endroit, t'as à tel endroit. Et il y avait même des VL, véhicules légers, où on envoyait deux personnes faire des levées de doute pour le Covid, pour checker si la personne avait vraiment le Covid ou pas, et potentiellement, après, faire une évacuation. Mais on intervient exactement de la même façon que les pompiers. On a les mêmes, enfin, oui, c'est exactement les mêmes formations, parce que c'est des passerelles, c'est des choses, c'est pas les mêmes noms. Mais c'est des passerelles qui existent entre nous, c'est les mêmes recommandations en soi qu'on a. Donc là-dessus, on intervient de la même façon que les pompiers, que les ambulances privées, que les autres associations aussi qui font des gardes SAMU.
Est-ce que les personnes individuellement peuvent faire appel à vous ou pas?
Non, on n'a pas de numéro direct. Voilà, vous pouvez pas nous appeler, coucou, je me suis blessé chez moi, est-ce que vous pouvez passer?
C'est ça.
On peut le faire entre nous à la rigueur si on veut, mais on n'a pas de numéro d'intervention SAMU, donc on peut pas mettre les gyrophares, on peut pas mettre les bleus. D'accord. Enfin voilà, faut.
C'est quelque chose qui est quand même réglementé.
C'est réglementé.
Ce qu'on veut, et ce qui est normal aussi, parce que.
Il y a un cadre légal à respecter, donc le cadre légal, c'est vraiment le SAMU qui le donne. Donc quand vous faites le 15, c'est le 15 qui va décider en fait. Parfois même ils nous disent, allez-y parce que vous êtes plus près, mais nous on arrive en renfort parce que là, vu l'intervention,
c'est ça.
Ça va dépoter un peu.
Et on tombe sur tout et n'importe quoi. Enfin, ça va être de la petite blessure à la grosse blessure à. Pendant le Covid, on a fait des accouchements. Je crois qu'on a encore fait un accouchement l'année dernière ou cette année, en début d'année.
En début d'année.
Ouais, je crois bien. Enfin, c'est tout et n'importe quoi. Enfin, membre sectionné, c'est un peu moins fun, un peu moins un truc.
Et avoir un peu de sang, désolé.
Un peu de sang, un peu de. On peut tomber sur tout et n'importe quoi. Vraiment.
C'est ça aussi. C'est la surprise.
C'est la surprise. Quand on fait un poste de secours, c'est différent parce que on va faire, je sais pas, une course en forêt, on sait que ça va être de l'hypothermie, du froid ou des traumas. Quand on est en garde,
un concert, il va y avoir l'alcool.
Voilà, l'alcool, des drogues ou
des
choses comme ça.
Une arcade sourcilière ouverte.
Quand on est en garde SAMU, on ne sait pas quelles vont être les prises en charge et c'est un peu la surprise. C'est le cadeau, c'est le, voilà.
Je vous propose de continuer notre conversation juste après avoir écouté Jérémy Frérot sur IDFM.
Je me souviens des trajets en vélo. Se rejoindre sur le sable, le soleil sur nos peaux, le goût salé des vagues, les feux du 14 juillet et nos glaces qui coulaient, assis sur le perret et nos faces qui bronzaient. On se retrouvait au club de plage, pas de plan sur la comète, juste des enfants de passage, des rêves plein la tête. On séchait sous les parasols, on aimait regarder le ciel comme des gamins qui s'envolent. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins des sables, 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 comme des gamins des sables. T'as vu comme on a grandi, toujours deux poissons dans l'eau. On habite au paradis, de la teste au moulot. Je me souviens des pinasses, accostées sur le banc, le cap ferré en face, les trampolines d'avant. Chez nous ça rigole, c'est l'histoire de nos vies, de gamins qui s'envolent. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins des sables, 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 comme des gamins des sables. Regarde comme le temps passé nous guette sans jamais nous séparer. Nos enfants seront peut-être ce qu'on a voulu donner.
Vous êtes toujours sur IDFM dans l'émission La Parole aux Associations avec Christophe Martins et Étienne Broquet de l'antenne valdoisienne de la protection civile. Alors, juste avant la pause, on parlait de toutes vos missions d'aide et de secours. J'aimerais quand même vous poser la question, est-ce que vous pourriez nous raconter ou est-ce que vous avez en tête une fierté ou un fait marquant dans votre expérience de bénévole à la protection civile? Étienne.
Bah alors moi je commence. Tiens, j'en ai deux comme ça. Il y en a un rapide et un peu plus long. Le rapide c'est donc moi j'habite à Beson et il y a pas si longtemps, en début d'année, en fin d'année, donc c'était il y a bientôt un an, ils font une course. une course toute bête, et une petite qui se blesse, et quand elle me donne son adresse, je lui dis, bah, c'est quand même dans ma rue, et au final, bah, c'est une fille qui habite à même pas 50 mètres de chez moi. Et donc, c'est rigolo, c'est quand on se recroise, bah, il y a toujours un petit sourire, et puis, au début, elle m'a quand même regardé du coin de l'œil en se disant, mais c'est qui ce bonhomme? Parce que, il me dit quelque chose, mais c'est vrai que sans la tenue, bah, on redevient des personnes civiles normales. Et donc c'est assez rigolo, c'est qu'au bout de 3-4 fois, on s'est quand même dit « ça va mieux ». Et puis elle m'a dit « ah, donc c'est vous, j'avais vraiment un doute, elle osait pas venir me reparler ». Et donc on a pu en discuter, et même la dernière fois, ses parents m'ont croisé, donc ils m'ont aussi félicité. Et ça m'a permis, il y a pas si longtemps, de passer dans la Gazette de Beson, donc en tant que citoyen du mois. Donc et j'ai même eu le droit à ce que mes collègues l'affichent dans notre antenne, donc... Ouais. J'ai ma petite photo avec un journaliste, un photographe, etc. Donc ça, c'était assez sympa. C'est des petits trucs où, bah, comme ici, l'association qui nous met en avant, bah, ça nous fait vraiment plaisir. Et bah, c'est des événements, honnêtement, on l'aurait pas fait sans la Protec. Donc merci à la Protec et puis merci à vous.
C'est ça, ouais. Avec plaisir. Alors, ça veut dire quand même que votre intervention n'était pas gênante, parce que quand vous intervenez chez les gens, vous intervenez dans leur vie perso, privée, et parfois on peut avoir, est-ce que j'aurais envie que mon voisin m'accouche, par exemple,
je ne sais pas. Sûr. Mais après, il y a énormément de monde quand on les prend en charge, ils nous disent non, mais
vous les sauvez, quoi.
Donc, ouais, mais désolé de pour des petits trucs des fois, non mais je vous avais pas m'évacuer, bah si madame le médecin du SAMU va vous voir, donc va vous emmener aux urgences. Après, quand on parle dans le camion avec eux, ils sont là en mode ah, ça doit être un métier dur et tout, mais en fait nous on fait ça pendant notre temps libre. Ah bon, c'est incroyable, mais vous êtes payé? Non, on n'est pas payé non plus, on est bénévole, donc on fait ça vraiment pendant notre temps libre, peu importe le moment, la journée, la nuit, on donne de notre temps. Ah bah vous êtes courageux de faire des choses comme ça, et c'est aussi une sorte de reconnaissance de bah, des gens qui se disent putain, ils font un travail de dingue.
Et vous alors, Christophe, un fait marquant, une ou une fierté?
Non, je pense que ma fierté c'est aussi du coup maintenant en tant que directeur d'antenne, d'avoir aussi tous ces bénévoles qui peuvent être aussi reconnaissants, qui sont il y a quand même énormément de départs, d'arrivées et tout ça, et c'est aussi de se dire qu'il y a quand même une cohésion, tout ça, et les gens sont quand même enfin reconnaissant du travail qui est fourni derrière. Donc non, moi c'est plus une reconnaissance comme ça qui fait que je fais du bien aussi à tout le monde, et que c'est plutôt valorisant à mes yeux aussi là-dessus.
Alors, quels sont les accidents les plus courants? Vous êtes appelé beaucoup
Ça dépend vraiment.
Moi, il y en a un qui m'a marqué une fois, c'est un monsieur, il se blesse mais vraiment pas beaucoup, avec un couteau en cuisinant, mais vraiment une blessure comme on peut avoir...
On se coupe en faisant la cuisine.
C'était une blessure comme une enveloppe, hein. Donc vraiment le petit coup de papier, ça saigne pas beaucoup. Sauf que le monsieur, il a hyper bien réagi, donc il nettoie sa plaie, il met son pansement, et à ce moment-là, il se rappelle qu'il a perdu du sang. Et à ce moment-là, il tombe, et là, il se fait plus mal que prévu.
Oui. C'est la chute qui a fait l'accident,
et au final, le petit bobo a entraîné. Et donc le monsieur, super bon réflexe. Jusqu'à temps de se souvenir de qu'il était en train de se faire un pansement à lui-même.
D'accord, ok.
Et quand on est arrivé, on s'est rendu compte, toute la famille est arrivée à ce moment-là aussi. Elle rentrait du boulot, et en fait, toute la famille avait perdu sang. Donc, on a fini avec toute la famille sur le canapé.
C'est un peu plus compliqué.
Et le monsieur qu'on a dû évacuer, puisqu'au final, ça pouvait être il y avait une suspicion de trauma, donc, on a dû intervenir un peu plus.
Bon, ils ont quand même réussi à tenir pour appeler le SAMU.
C'est ça. Ils ont réussi à faire l'appel, et après, plus personne.
C'est ça.
Bon, et alors, vous êtes 350 bénévoles sur le Val d'Oise, vous intervenez sur des champs très 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 larges, avec une technicité et une spécificité pour quand même beaucoup d'interventions. Donc forcément, il va falloir que vous nous racontiez comment vous formez, qui vous formez? Est-ce que c'est uniquement en interne? Est-ce que vous êtes en lien avec... des organismes, des entreprises qui auraient besoin d'être formés au premier secours. Est-ce que nous, individuellement, on peut se former aussi chez vous?
Alors, totalement. Nous, d'abord, on est organisme de formation. Donc, on est même éligible au CPF. Et du coup, on vient faire des formations au grand public, donc qui sont ouvertes à tous. Notre formation de base, c'est un PSC. Et en fait, c'est une formation d'une journée où on va vous apprendre à interagir en tant que secouriste isolé chez vous avec le matériel que vous pouvez avoir autour de vous sur toutes les différentes circonstances que vous pouvez avoir, que ce soit de la brûlure, que ce soit des hémorragies ou des plaies ou des malaises ou des traumas, juste intervenir avec ce que vous avez autour de vous en fait.
Et c'est vraiment les accidents prévenir des accidents domestiques et pouvoir apporter quelques en attendant que des professionnels arrivent.
Exactement.
Ou des bénévoles. Ou pas bénévoles, que des professionnels. Voilà,
des professionnels bénévoles. Vous êtes des experts quand même de votre sujet.
Et ça, par exemple, on promouvoit du coup les formations et on fait des formations quasiment tous les jours sur du PSC pour les premiers secours, pour le grand public. Au minimum une par jour, on se rend aussi dans les entreprises quand il y a besoin, faire des formations SST, sauveteurs secouristes du travail, ou même d'autres associations qui veulent former les bénévoles qu'ils ont chez eux, alors que c'est pas forcément du tout des associations de secours, mais juste pour de la prévention ou pour pouvoir faire d'autres choses. Donc en fait c'est plutôt sympathique de voir les choses comme ça, même des familles qui viennent entre elles, parce que on peut être dans un cas où une personne, souvent les gens quand on leur demande pourquoi est-ce que vous venez faire des formations, ils nous disent moi j'ai eu ma grand-mère ou ma mère qui est tombée et en fait je me suis trouvé assez bête de pas savoir quoi faire ou comment le faire, donc en fait je fais cette formation pour pouvoir avoir un minimum de base pour pouvoir agir et ne pas être psychologiquement frustré de pas pouvoir le faire.
Et comment on fait si on veut se former chez vous? Est-ce que vous avez un site internet
Exactement.
On peut le faire en ligne, faut vous appeler.
Vous pouvez le faire en ligne directement, régler en ligne. C'est finançable aussi sur le CPF, donc vous pouvez retrouver nos formations sur le CPF avec les différentes dates. La plupart de nos formations, en tout cas, quand vous venez en tant que grand public et pas en tant qu'entreprise ou des choses comme ça, toutes nos formations se passent à notre centre de formation, à Cergy-Saint-Christophe. On se déplace quand c'est des plus gros groupes ou des choses comme ça. Mais en tout cas, toutes nos formations se passent là-bas.
Alors ça, c'est la formation, on va dire, de base. C'est
formation, ça. Une journée avec nous où on apprend les gestes et après, on va aussi mettre des petites mises en situation à la fin de journée pour aussi voir un peu du stress, comment ça se passe. Donc c'est hyper intéressant de venir et de se mettre un peu dans le stress. Et il y en a certains en formation, ils paniquent. Et au final, après, ils ont paniqué une fois, ils ont vu comment ils réagissaient et la fois d'après, ils réagissent beaucoup mieux.
Et alors, ensuite, j'imagine que ça monte en puissance.
C'est ça, ça monte en puissance. Une fois il y a des gens qui viennent aussi de l'extérieur pour se faire former au premier secours, un peu plus approfondi. Donc, en fait, on va rentrer sur une phase qui s'appelle, un diplôme qui s'appelle le PSE1, premier secours en équipe de niveau 1, où en fait, ça va être 5 jours de formation. 5 jours de formation, ça va pas être on est assis et on écoute. C'est de la formation qui forcément allie un peu de théorie, mais énormément de pratique. Où faut faire valider des blocs pour pouvoir à la fin avoir son diplôme. Parce que c'est quand même, on est là pour donner les premiers secours et on peut être responsable de aggravation ou des choses comme ça. Le PSE1, c'est recentré sur la personne en elle-même, où en fait on va pouvoir intervenir peu importe ce qu'elle a. Vous tombez par terre là, on est là normalement et on peut vous prendre en charge. C'est la formation de 5 jours qui est classique, qui est obligatoire en tout cas
pour monter
dans une ambulance et être sur un poste de secours. En plus de ça, on va avoir le PSE2 qui va s'ajouter, 4 jours de formation, où là en fait on va venir faire, en PSE1, vu qu'on a déjà agi sur la personne, là on va agir sur comment déplacer cette personne-là, comment la prendre en charge. Donc on va faire du brancardage avec tout le matériel qu'on peut avoir, dépendant de ce qu'elle a. Ça peut être, si c'est une épaule, on va pas la brancarder ou la déplacer de la même façon que si c'est un problème au niveau des lombaires ou de la colonne vertébrale, ou au niveau de la jambe, au niveau de la cuisse, que si c'est un malaise ou pas, ou des choses comme ça. Donc en fait, on va travailler là-dessus, en plus de tout ce qu'on a vu en PSE1 du coup. Et en PSE2, on voit aussi les cas psychologiques, où ça va être un peu plus intense, parce que c'est des choses qu'on voit pas forcément tous les jours, mais qui sont aussi importantes. Et on voit l'accouchement inopiné, parce que ça arrive.
C'est ça. Le grand classique, je sais pas, mais c'est vraiment comme une légende réelle.
Ça peut être le chose que certains de nos secouristes disent, moi je ne veux pas faire ça.
On touche pas une seule vie, on en touche deux. Voilà. Donc, vous avez accoucher une...
Non, mais à chaque début de garde, souvent on dit... Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Parce qu'il y a des gens, ils ont horreur des pieds, il y en a qui ont horreur des... certains.
Voilà.
Voilà. Tout à l'heure, on parlait du sang. Moi, j'ai dit les accouchements. Moi, je suis conducteur de base, donc moi, je suis conducteur.
Laissez-moi tranquille.
C'est ça. Je resterai derrière le volant s'il y a besoin. Non, en soi, c'est là où on se dit, ça peut être certaines peurs, et au final, quand on est confronté, parce qu'on est formé, bah en fait, on réagit de manière presque automatique. Moi, une fois, on est tombé sur un arrêt cardiaque après 12 heures de poste, on était très fatigué. Bah, en fait, on s'est mis en mode robot quasiment tous. On était 8. En fait, sur les 8, il n'y a eu aucune défaillance. Il n'y a personne qui a perdu ses moyens parce qu'en fait, on est tous formés, on
vous
s'entraîne.
Vous saviez exactement ce qu'il fallait faire et vous avez appliqué le protocole.
Exactement.
Derrière, c'est un peu triste, un peu dur, mais au final, on a fait ce qu'on savait faire et de la meilleure des manières.
Et alors, j'imagine qu'il y a aussi, en plus de toutes ces formations qui permettent de monter en puissance sur la sécurité civile, il y a des formations spécifiques. Si vous avez une équipe nautique, vous parlez d'encadrer, de coordonner des recherches de personnes disparues, j'imagine qu'il doit y avoir une formation spécifique.
Alors, dans ces cas-là, c'est plus de la formation de management qu'on va faire sur des personnes qui sont prêtes. En tout cas, sur, par exemple, du recherche à victimes en secours nautique. Nous, on forme nos secouristes aquatiques. On forme aussi du grand public qui veut aussi faire du secours aquatique. Souvent, ça peut être des jeunes qui veulent travailler sur les plages l'été ou des personnes en reconversion qui font, par exemple, éducateurs de triathlon, des choses comme ça, et qui veulent avoir des compétences supplémentaires. Ça, par exemple, des formations tous les dimanches où on s'entraîne à passer les épreuves. Tous les dimanches soirs à la piscine de Franconville où du coup, on se la donne dans l'eau. On n'est pas là pour vous apprendre à nager, on est là pour vous réussissiez les épreuves le moment de l'examen, en fait. Et du coup, c'est et des bénévoles de chez nous pour rentrer dans l'équipe nautique et des personnes extérieures qui veulent aussi se former au premier secours.
Je vous propose de nous intéresser maintenant aux bénévoles sans qui l'association ne pourrait certainement pas aussi bien fonctionner. Juste après avoir écouté Cyndi Lauper, on revient juste après sur IDFM. Sur IDFM, dans l'émission La Parole aux associations, avec Christophe Martins et Étienne Broquet de la Protection Civile pour le Val d'Oise. Alors, on a vu que les 350 bénévoles du Val d'Oise étaient au cœur des interventions de la Protection Civile sur le territoire, sur le département. D'abord, comment on peut devenir bénévole? Est-ce qu'il faut, comme vous, Christophe, avoir déjà eu... je sais pas, quelques certifications ou diplômes de surveillant de baignade?
Non, franchement, pas du tout. Comme dans une grande chaîne de fast-food, on vous dit, vous venez comme vous êtes. Nous, on s'occupe de vous former au premier secours, de vous donner un uniforme et de vous donner des activités et des choses à faire. À savoir qu'à la protection civile, vous n'êtes jamais obligé de faire quelque chose. On fonctionne sur une application où, en fait, il y a tout autre calendrier avec nos activités. Vous êtes disponible, vous avez envie, vous inscrivez. Vous n'avez pas envie, vous inscrivez pas, tout simplement. Donc là-dessus, c'est assez libre. Enfin, franchement, on n'oblige pas les bénévoles à faire des postes de secours ou à faire des gardes ou faire d'autres activités. Donc là-dessus, c'est assez pas très. Enfin, c'est assez libre.
Pas trop contraignant. C'est-à-dire que si
c'est ça, c'est selon le temps libre des gens aussi. Donc,
voilà, s'il y a des mois où on est très disponible, on pourra plus s'impliquer.
Voilà, c'est ça. Moi, tant qu'on me le dit, il faut principalement de la communication. Et la communication, ça va dans tous les cas dans cette association, parce que sans communication, les gens sont un peu perdus et aussi il faut, animer toutes ces personnes-là pour que leur donner toujours envie de revenir la prochaine fois, parce que donner de son temps pendant 10 heures, ça peut être long parfois, et il faut aussi les valoriser, donc les faire monter en compétences, leur faire passer des diplômes supérieurs et leur proposer aussi un autre champ d'action au niveau des formations.
Ça, c'est obligatoire de lorsque je deviens bénévole à la protection civile. Il y a avant d'être sur le terrain, on est formé.
Comme on a dit, pour monter dans un camion, c'est mieux d'avoir le diplôme de premier secours, le PSE1. Parce que sinon, en fait, les activités vont être vite restreintes. On peut faire certes des maraudes ou des choses ou d'autres choses ou de la logistique par exemple, mais ça va être très vite restreint parce que c'est une boutique qui tourne en fait, et les gens sans formation, ça peut aussi les frustrer de pas pouvoir aider. Donc en fait, on est assez clair avec eux. Il vaut mieux être secouriste pour pouvoir faire des actions et pouvoir agir. Là-dessus, en tout cas.
Ça, c'est gratuit pour les bénévoles? Vous formez comme ça, bénévoles gratuitement, ou il y a un échange de bons procédés?
Il y a un échange de bons procédés. Les formations, par exemple, le PSE1, en externe, il coûte 350 €. Nous, quand vous venez en tant que bénévole, on vous le finance, mais on vous fait signer en contrepartie un papier qui vous engage, en fait, à nous donner, par exemple, être présent pendant 12 postes de secours ou 14 postes de secours, dépendant de la formation que c'est et la durée de la formation. Et c'est une sorte de remboursement. Parce que si les bénévoles viennent aujourd'hui et repartent demain, pour nous, c'est aussi un petit boost financier parce que c'est pas du tout rentable là-dessus. Donc,
et alors, est-ce que vous intervenez, quand on est bénévole à la protection civile, est-ce qu'on intervient, j'imagine, on intervient plutôt en binôme ou en groupe?
Dans tous les cas, c'est tout le temps par binôme. On sera jamais 3 sur poste ou 5 sur poste. C'est au minimum, c'est par binôme dans tous les cas. Et après, il y a, en plus des formations, parce que le PSE2, c'est le niveau de formation maximum en secourisme qui existe en France, on va rajouter des formations managériales, en fait, de chefs d'équipe, de chefs de poste ou d'autres formations qui permettent de compléter le parcours d'un bénévole.
Et j'imagine qu'entre bénévoles, il y a des spécificités dans les compétences. On intervient, par exemple, une intervention SAMU, enfin dans le cadre du mobilisé par le SAMU. Le camion est composé de combien de personnes?
Les compositions, elles sont réglementées dans tous les cas et il faut au minimum 3 PSE2, 1 PSE1. Ça, c'est donc on compte à 4 dans un camion pour une garde SAMU. Et sur ces 4 personnes, il nous faut une personne qui a du coup qui est PSE2 et chef d'équipe et une personne qui est agréée à conduire les véhicules en état d'urgence. Ou ça, c'est des formations qu'on fait en interne, où faut faire valider un papier aussi par médecin de la préfecture, qui nous stipule qu'on peut conduire conduire des véhicules avec des personnes, des victimes à l'arrière.
D'accord. Alors justement, vous avez dit médecin, et pendant la pause, on parlait justement de ce lien entre la médecine et le secourisme. Je vous disais, mais dans 20 ans, vous pouvez faire des opérations à cœur ouvert. Est-ce que je me trompe dans le sens où c'est au départ, avant de vous rencontrer, je pensais que la protection civile était principalement composée de personnes du milieu médical.
Pas du tout.
Et en fait, pas du tout.
Pas du tout. On a de tout corps de métier. Ça peut être le boulanger, le jeune étudiant, la personne retraitée.
Il n'y a pas de médecin qui s'inscrit.
Il y a des médecins ou des infirmiers qui peuvent s'inscrire, mais dans tous les cas, ils vont faire les formations de premier secours parce que c'est pas forcément les mêmes protocoles que eux ont eu dans leur cursus de médecin ou d'infirmier. Donc en soi, tout le monde est identique. On a la même tenue et les mêmes formations de base pour pouvoir exercer en tout cas le rôle de secouriste.
Le médecin de votre quartier n'est pas le médecin urgentiste.
C'est ça.
Il y a une grosse différence entre la médecine de ville et la médecine d'urgence. La médecine d'urgence, ça peut être quelqu'un qui fait une hémorragie, qui se vide de son sang. Le médecin de quartier, il va savoir gérer. Mais c'est juste que aller enlever le garrot, pouvoir mettre les antibiotiques qui correspondent, c'est un autre travail. Et donc là, nous, on va plutôt parler en mode urgence. Donc ça va être de la gestion rapide pour figer une situation, d'arrêter une détresse vitale. Mais par contre, on n'a aucun accès à des médicaments à part de l'oxygène. Nous, c'est notre seul médicament autorisé qu'on peut injecter sans forcément demander au SAMU, hein, sans forcément appeler le SAMU. Coucou, est-ce que j'ai le droit ? c'est là où on va pouvoir mettre, nous, de l'oxygène, donc qu'on a dans nos camions et dans nos sacs, pour pouvoir remonter une saturation, une personne qui vient de faire une noyade, quelqu'un qui vient de faire une tentative de suicide, quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, voilà. C'est là où on va pouvoir intervenir, c'est notre cadre urgence, comme les pompiers, comme la Croix-Rouge, et comme d'autres associations ou ambulances privées.
Et vous faites des, alors je sais pas comment ça s'appelle, des débriefs, des, parce que vous parlez de, d'arriver, quand on arrive, c'est la surprise.
C'est ça.
On a une vague idée quand même de pourquoi on est appelé, mais au moment où on arrive sur place, il peut y avoir des situations extrêmement choquantes, même quand on est préparé.
C'est pour ça qu'il y a aussi des chefs d'équipe qui sont aussi formés à ça, qui permettent de aussi répartir les équipiers et savoir ce qu'ils doivent faire, parce que même si on est choqué, on sait ce qu'il faut faire, donc dans tous les cas on va agir. Il y a des débriefs à la suite qu'ils ont fait là-dessus, souvent après chaque intervention, quand on dépose la victime dans le sas de l'hôpital, enfin des urgences, on fait des débriefs, savoir comment est-ce que ça s'est passé, comment on l'a senti, comment est-ce qu'on aurait pu le faire autrement, parce que peut-être que des personnes ont eu des idées autres, enfin d'autres idées qui auraient pu être mises en place, mais dans tous les cas il y a énormément de communication. Et avec la richesse des bénévoles qu'on peut avoir, les idées peuvent être, enfin, c'est pas parce que c'est lui le chef que c'est lui qui va forcément décider. Toutes les bonnes options peuvent être anticipées et, être su par toutes les équipes, en fait.
Et alors, de quoi vous avez besoin? Antenne.
De quoi on a besoin?
De Valparaisis.
Ouais. De personnes motivées.
De personnes motivées. De bénévoles. Disponibles, motivés. Qui sont prêtes à donner de leur temps. Nous, on donne de notre temps. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas le temps, donc ils donnent, par exemple, de l'argent, ils donnent des vêtements, ils donnent des choses comme ça.
Ah, on peut faire des dons
Oui, vous pouvez faire des dons libres sur le site de la Protection Civile aussi, c'est possible.
Du type des impôts.
Mais il y a plein de choses. Enfin, nous, on cherche principalement aussi des personnes motivées pour pouvoir remplir nos postes de secours et tout ça. Après, c'est un cadre quand même très sérieux et on voit que c'est quand même assez sérieux. Mais il faut pas oublier qu'on est aussi des bénévoles. On est là aussi pour bien rigoler, pour partager des moments, enfin, de joie et de moments de vie. Donc, il y a énormément de moments de cohésion et ça, faut pas l'oublier parce qu'on en a pas trop parlé. Mais on est bénévole avant tout. Donc, on est là pour se faire plaisir aussi. Mmh. On n'est pas là aussi. On est professionnel dans nos gestes. Ça, c'est quelqu'un un de nos bénévoles qui nous l'a dit. On est professionnel dans nos gestes, mais on est aussi là pour pouvoir décompresser et partager des bons moments avec des personnes, quoi.
Merci beaucoup Christophe, Étienne, d'être venu nous présenter l'antenne valdoise de la protection civile avec autant d'enthousiasme. On arrive à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, comment peut-on vous contacter?
Alors, pour nous contacter, vous pouvez nous contacter par mail principalement. Je peux donner l'adresse email dans tous les cas.
Bien sûr.
C'est val-doise@protection-civile.org. Vous pouvez écrire à cette adresse.
Vas-y.
Et nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. Vous pouvez nous écrire, dans tous les cas il y aura quelqu'un qui vous répondra pour pouvoir après vous rediriger. Dans tous les cas il y aura forcément quelqu'un qui va vous répondre. Protection Civile du Val d'Oise, dans tous les cas c'est facile à nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc c'est aussi un bon moyen de pouvoir faire voir aussi nos actions et pouvoir nous contacter et rentrer en lien avec nous.
Et après, moi, ce que je dis souvent en formation, si vous voulez nous retrouver, vous vous mettez dans votre lit, vous notez Protection Civile sur Google Maps et vous voyez l'antenne la plus proche de chez vous. Le but, c'est que ça soit proche de chez vous pour que vous ayez du temps et que ça soit accessible et parfois que vous puissiez intervenir dans votre vie quotidienne, au final dans votre entourage, dans le monde qui vous entoure réellement.
C'est,
voilà.
c'est
pour aller secourir dans le Nord ou secourir à Nice. C'est beau, c'est très bien, c'est un très bel engagement, mais ça fait quand même quelques kilomètres avant d'arriver en poste de secours.
J'ai été ravie de vous recevoir et vous souhaite de continuer à aider, secourir et former autant de personnes que vous le pourrez. Merci beaucoup.
Merci à vous pour l'accueil, en tout cas.
Un grand merci également à Francky pour la réalisation de cette émission. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à toutes et à tous.